Chut, on écoute la télé avec les confitures cuites au chaudron par Lucien Georgelin. Vos points de vente en Dordogne sur lucien-georgelin.com.
Chut, on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc de Pineuil, votre spécialiste culture, centre commercial Grand Pineuil. C'est l'heure de Chut, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Bergerac 95 avec Alain Jeanne.
Bonsoir à tous, comme chaque lundi à 20h, ravi de vous retrouver pour votre émission Chut, on écoute la télé sur Bergerac 95.
Chut, on écoute la télé,
le talk show radio.
Et c'est une nouvelle émission événement à laquelle je vous convie bien aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé, bien le deuxième de l'été, hein, ce 8 juillet. Il nous reste encore deux numéros à passer avec vous en hebdo, et un prochain numéro consacré aux francopholies la semaine prochaine et de nombreuses surprises le 22 pour la dernière de la saison. Mais en attendant, eh bien pour aujourd'hui, nous allons continuer de fêter les 2 ans de Demain nous appartient avec les nouveaux personnages à l'honneur durant ce mois de juillet, et on va commencer cette émission dans un instant avec Kamel Belghazi qui joue le rôle de William Donnier, le médecin à l'hôpital, et nous allons eh bien faire un focus également sur le personnage de Justine. Vous vous êtes très très vite attaché à Justine, ça tombe bien, nous aussi. Son interprète Laura Mathieu sera à mes côtés dans quelques instants. Et puis nous terminerons l'émission tout à l'heure par une pré-franco, c'est le chantier des franco qui est à l'honneur avec Arthur Ellie et Silly Boy Blue, deux découvertes musicales que l'on vous fera partager à 2 jours de l'ouverture de cette nouvelle édition des francopholies de La Rochelle. Et au milieu de l'émission, eh bien, nous aurons le plaisir d'avoir en invité aujourd'hui Julien Cohen. Il est une des stars de l'émission à faire conclure sur les après-midi de France 2. Il vient de sortir un bouquin et nous dira tout dans quelques minutes. Vincent Lagaffe également à l'honneur pour les 30 ans de Fort Boyard. Il viendra nous présenter son personnage méga gaffe. Et puis également focus sur Un si grand soleil et le personnage de Ludo avec Folco Marchi qui sera notre invité. Alors, sans plus tarder, on continue déjà à fêter les 2 ans de Demain nous appartient. Tout de suite, avec la première partie de l'émission, c'est parti.
Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Et on continue un peu notre spécial DNA tout au long de l'été pour fêter les 2 ans de la série. Et puis, on va accueillir eh bien, toutes les semaines un petit peu des nouveaux personnages. Et c'est le cas de Laura Mathieu qui est avec nous, qui joue le rôle de Justine. Bonjour Laura.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, ça me fait super plaisir. Moi, j'étais fan. Je suis tombée sous le charme dès la première, on va dire dès la première séquence.
C'est gentil, merci.
Alors, j'ai été impressionnée déjà par l'histoire. L'histoire de cette jeune fille qui arrive comme ça, avec ce passé. On va en apprendre, évidemment, je suppose, beaucoup plus encore sur son passé. Et elle va faire chavirer le cœur de Tristan. Et elle va s'installer, évidemment, et faire table rase de son passé à travers l'histoire qu'on a découvert. Qu'on va continuer à découvrir tout au long de cet été. Mais déjà, la première question que j'avais envie de te poser, Laura. Comment tu es arrivée dans cette aventure?
Eh bien, j'ai passé un casting l'année dernière, je crois que c'était en juillet, pour le rôle de Justine. Donc j'ai fait un premier épisode en juillet, qui a été diffusé quelques mois après. Et ensuite, je suis revenue en octobre pour tourner à nouveau 2 autres séquences, qui ont été diffusées un peu plus tard également. Et à ma grande surprise, on m'a rappelé en janvier pour me dire que le personnage avait une suite.
Il allait devenir récurrent finalement, puisque le départ de Sandrine Salière, quelque part, a fait une heureuse. Et évidemment, tu pensais pas que t'allais t'installer comme ça sur la longueur, finalement, dans la série.
Ah, pas du tout. Ça a été une grande surprise pour moi. C'est vrai que la place s'est libérée au Spoon et dans le cœur de Tristan. Donc, c'était finalement le destin de Justine.
Quelles ont été les premières réactions du public aux premières diffusions, justement, par rapport au métier que tu exerçais, le métier d'escorte? Quelles ont été les réactions du public, des fans sur les réseaux? Est-ce que tu as été attentive un petit peu à ça? Est-ce que tu as regardé?
Alors, aux toutes premières diffusions l'année dernière, honnêtement, j'ai pas regardé. C'est vraiment cette année, lorsque le personnage est revenu, là, je me suis vraiment penchée sur les réseaux sociaux et j'ai même pas vraiment eu besoin de m'y pencher parce qu'en fait, beaucoup, beaucoup de personnes m'ont écrite. Et ce qui est vraiment, ce qui réapparaît dans tous les messages que je reçois, c'est les gens ont vraiment vu la détresse de Justine et son côté attachant et très, très solaire, en fait. C'est pas tellement le métier qu'ils ont retenu, c'est plus la personnalité de Justine. Et finalement, ils ont tout de suite compris qu'elle exerçait ce métier, pas par plaisir, mais par nécessité.
Oui, c'est ça qui était assez impressionnant. On n'avait pas l'impression, effectivement, par rapport au caractère du personnage, qu'elle vivait mal cette situation. Et on a compris, évidemment, avec les derniers épisodes qu'on a vus, qu'intérieurement, c'était une toute autre histoire.
Voilà, c'est ça. C'était, en fait, elle essayait de se convaincre elle-même que c'était un métier comme un autre, mais au fond d'elle, elle souffrait. Elle a une personnalité qui cache les mauvais côtés et qui essaye de toujours faire sortir le positif. Et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup ce personnage. Et c'est vraiment ce qui m'a plu dans l'interprétation de ce personnage. C'est toujours faire ressortir le côté positif des choses, sans pleurer sur son propre sort, quoi.
C'était très bien fait, très bien écrit en plus. T'as partagé les premières scènes, on va dire, que t'as fait avec Axel Kiener. Et après avec Mathieu Alexandre, évidemment, qui joue le rôle de Tristan. Comment s'est passée votre rencontre à tous les deux?
Avec Axel ou avec...
Avec Mathieu. Parce que là, maintenant, du coup, tu partages toutes tes scènes quasiment avec lui.
Ben, Mathieu, c'est assez fou. Parce que dès notre rencontre, bon, le courant est passé tout de suite. Et vraiment, on a eu des scènes en plus de bisous, des scènes assez dénudées dans la chambre. Et c'est vrai que c'est des scènes qui sont quand même hyper stressantes et hyper gênantes. Et ce qu'on a remarqué avec Mathieu, c'est que ça s'est passé finalement très très bien. Parce qu'on avait l'impression de se connaître depuis 20 ans. Donc on a une très forte amitié maintenant qui s'est développée, mais qui est arrivée tout de suite. Et c'est assez impressionnant parce que ça s'est fait naturellement. Et finalement, on a très bien vécu ces séquences qui auraient pu être très difficiles.
Quel est ton parcours, Laura, avant d'arriver dans Demain nous appartient? Et est-ce qu'il y a d'autres projets pour toi qui te tiennent à cœur sur 2019? On te verra peut-être par la suite.
Alors mon parcours, moi j'ai commencé par le théâtre. Mais en parallèle, j'ai aussi fait de longues études. J'ai un master recherche en biologie marine.
Et oui, carrément.
En parallèle, je faisais du théâtre et j'avais toujours cette petite idée parce qu'au fond de moi, ce que je voulais, c'était jouer. Et c'est pour ça qu'il faut toujours croire en ses rêves, parce que même si on emprunte des fois des chemins qui sont assez divergents de ce qu'on voulait à la base, bah, si vraiment on persévère et si on croit en ses rêves, on y arrive. Enfin, moi, j'en suis l'exemple vivant. Et donc maintenant, je vis de ce que j'aime, et ça, c'est le plus grand des bonheurs. Sur mes projets de 2019, je joue dans plusieurs pièces de théâtre. Je vais faire le Festival d'Avignon avec Le Compromis de Arnaud Remakers. Il y a une pièce qui me tient vraiment...
Arnaud, qu'on connaît bien d'ailleurs.
C'est vrai ?
Oui, tu l'embrasses de notre part. On adore Arnaud, c'est un copain.
Super, avec plaisir. Une autre pièce qui me tient à cœur, c'est Un petit coin de parapluie, qui est aussi une pièce d'Arnaud Remakers. Et qu'on espère faire tourner, et notamment on espère l'installer à Paris pour un petit moment. Donc j'espère que ce projet verra le jour en 2019.
Tu as réagi quand t'es arrivé dans Demain nous appartient, au fait que ça soit une série quotidienne, que tu t'installes dans le cœur des Français tous les soirs, que évidemment c'est 4 millions qui vous regardent, le regard des gens dans la rue change, quand tu achètes ta baguette de pain ça change aussi. Est-ce que tu t'étais préparé un peu à ça? Parce que là ça doit commencer à arriver quand même tout ça.
Alors c'est très bizarre, c'est vrai qu'on m'avait prévenu, mais je m'attendais pas à un tel impact et aussi rapidement en fait. Dès la diffusion du premier épisode là cette année, quand je suis revenue, à la sortie des studios, il y avait plein de monde qui criait déjà mon nom. Ils m'appelaient pas Justine, ils m'appelaient vraiment pas Laura. Donc c'est vraiment assez impressionnant en fait. J'ai l'impression que très très vite les gens m'ont aimée et ont pris la peine de chercher mon nom sur internet. Et je reçois des messages extrêmement gentils, extrêmement bienveillants et qui me remplissent de bonheur tous les jours. Et c'est vrai que même le regard dans la rue aussi, les gens qui me reconnaissent, c'est quelque chose d'assez inattendu. On n'est jamais préparé, je pense, à ça. Mais c'est toujours plein de bienveillance et d'amour et du coup, ça m'apporte beaucoup de bonheur. J'espère que je leur en apporte aussi, j'ai l'impression. Mais en tout cas, eux m'en apportent énormément.
En tout cas, c'est un personnage très attachant, très bien écrit, que l'on découvre dans Demain nous appartient, le personnage de Justine, que vous pourrez découvrir encore tout au long de l'été, bien évidemment, dans Demain nous appartient. On va suivre encore eh bien, cette histoire avec Tristan, qui va nous réserver bien des surprises. Peut-être qu'on verra ta fille arriver.
Peut-être, qui sait.
On va suivre ça, en tout cas, cet été. Merci à toi, Laura, et à très vite.
Merci beaucoup, à bientôt.
Continuez à explorer nos personnages de Demain nous appartient avec Kamel Belghazi, un des derniers arrivés sous les traits du chirurgien William Daunier qui est avec nous. Bonjour Kamel.
Bonjour Alain.
Merci d'être avec nous. Alors déjà, comment t'es arrivé dans Demain nous appartient?
Ouais, c'est très intéressant. Moi, j'avais jamais travaillé sur un access prime time comme ça, une quotidienne. Donc c'est une vraie découverte, un vrai plaisir aussi, parce que je m'éclate dans le jeu, dans le personnage. Alors je suis arrivé, on m'a proposé d'incarner, on m'a dit qu'il y a un nouveau personnage qui arrivait dans la série, on m'a proposé de l'incarner, j'ai lu un petit peu le descriptif du personnage qui allait lui arriver, je trouvais ça très très intéressant et j'avais envie de le défendre, tout simplement, donc me voici, me voilà. Et je ne suis pas, petite précision, je ne suis pas chirurgien, je suis interniste, c'est-à-dire que je suis un spécialiste du diagnostic.
Exactement, où aucun diagnostic ne t'échappe.
Normalement, non. Il peut y avoir quelques petits ratés, mais normalement, j'arrive toujours à me raccrocher à une branche.
Bon, t'as sauvé la vie de Victoire quand même.
Ouais, déjà, c'est pas rien.
Quand on t'a dit que t'allais incarner justement ce rôle de médecin interniste, tu t'es dit quoi ? T'as eu des appréhensions ? Est-ce que tu t'es rencardé avec des amis qui incarnaient peut-être ce métier ?
Ah, je me suis rencardé avec des amis qui sont médecins. Et moi-même, j'aime bien, je suis assez curieux de ce domaine, du domaine médical. Et j'explore, je suis assez curieux de nature, donc j'explore un petit peu à droite à gauche. Donc c'est un domaine que je ne maîtrisais pas, mais dans lequel j'avais quelques notions. J'ai approfondi tout ça avec mes amis médecins. Et dès que j'ai une question, dès que j'ai un petit problème ou une interrogation, je les appelle et j'essaye de voir ce qu'ils peuvent me proposer comme solution.
Première scène, tu t'en souviens ? Premier jour de tournage ?
Ouais, je me souviens, c'était avec Luce Mouchel. Et Solène, et j'arrivais, et c'est là que j'ai dit bonjour. C'est la première scène où on me voit effectivement arriver. C'était normalement la première scène que je tournais avec elle. Ouais.
Donc c'était vraiment ta première scène, la première scène où on te voit arriver.
Ouais, c'était vraiment ma première scène, la scène où on me voit arriver.
Alors, tu as incarné le gendre de Jacques Beaumont pendant 27 ans. Une page s'est refermée il y a quelques mois au grand dam des téléspectateurs. Mais Annie Dupéré et même Bernard n'ont pas peut-être fermé la porte définitivement, on ne sait pas. Est-ce que toi tu serais partant pour par exemple faire un épisode spécial pour les 30 ans de la série en 2022 s'il devait y avoir?
Alors moi j'ai pas incarné le gendre pendant 27 ans parce que je suis arrivé en 2000.
Donc oui, évidemment elle était un peu petite Frédéric à cette époque. Hein.
Voilà, exactement, elle avait 12 ans, ne faites pas de moi ce que je ne suis pas.
Je parle de la série, je parle de la durée de la série. Oui.
Donc voilà, mais oui, ça a été un moment particulier de refermer la page de ce magnifique livre qu'on avait écrit tous ensemble. Mais si Bernard et Annie n'ont pas complètement fermé la porte, je pense pas que je serai en mesure de refuser cette invitation à tourner si j'ai le plaisir de nouveau de travailler avec eux.
On a bien compris, hein, de toute façon, hein, vous interrogeant tous les uns après les autres, que voilà, on espère en tout cas nous aussi qu'un jour, voilà, il y aura un petit retour, même s'il est exceptionnel, tu vois, ouais. Ça peut être un beau clin d'œil. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Kamel?
D'être heureux de continuer de travailler et de travailler sur des projets de plus en plus intéressants et de rester en bonne santé, surtout avec la pêche et le sourire accroché aux lèvres en permanence.
Bon, bah, je crois que là t'as du pain sur la planche parce qu'une quotidienne, le rythme est très très soutenu et tu repars sur le tournage en tout cas très vite. Merci à toi. Un dernier petit mot sur Julie de Bazac, oui. Puisque voilà, on vient d'apprendre qu'elle était ta femme à l'écran, donc on va découvrir toute une nouvelle famille autour de vous évidemment.
Exactement, on va découvrir la famille de Donnier
avec une fille, je crois qu'il va pas être facile. Hein.
Deux filles.
Deux carrément.
Deux filles, ouais. Deux filles. Une qui s'appelle Sophia. Et une qui s'appelle Manon, pardon. Et effectivement, ma femme est jouée par Julie de Bazac. Ouais. On forme une très belle famille, très drôle, très joyeuse, pleine d'entrain, de bonne humeur, avec tous les tourments et les joies d'une famille moderne.
On va découvrir ça tout au long de l'été. Merci à toi.
Merci Alain.
Et à très vite.
À très vite, au plaisir.
Dans les épisodes précédents.
Déjà debout ?
Ouh, non mais ça va pas ou quoi ?
T'as déjà vu un mec à poil, non ?
Vous respectez rien en fait.
Ah mais c'est ça le problème. C'est parce que ta nana a vu un mec qui en met une plus grosse que la tienne.
Espèce de gros.
Non mais ça va pas.
Tu peux me mettre un avertissement quand même.
Si, je refuse de tolérer la moindre violence dans cet hôpital.
Chloé t'a dit clairement que j'étais vivant.
Ouais, elle était sûre d'elle.
Je dois me rendre.
C'est trop tard. Garance et moi maintenant on était complices. Commandant Constant, j'ai eu des nouvelles de mon mari. Il est pas mort. Il a été kidnappé.
Et on va se retrouver dans quelques instants pour la suite de notre émission. Vincent Lagaffe, Julien Cohen, mais également Folco Marchi, d'un si grand soleil. On termine par une pré-franco également avec Arthur Ellie et City Boy Blue. Tout ça, c'est dans 3 minutes. Dans Chut, on écoute la télé. À tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé. Reviens dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé. Le talk show radio. Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Allez, on va parler d'un très beau bouquin aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé qui vient de sortir aux éditions Robert Laffont. Il fait un carton pour vos après-midi de France 2 dans Affaires conclues. C'est l'un des enchérisseurs les plus aimés du public, Julien Cohen, qui est notre invité. Bonjour Julien.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Alors Julien, je connais plein de monde hein, autour de moi qui sont totalement fans de l'émission Affaires conclues. C'est un incroyable défi et surtout un incroyable succès cette émission.
C'est effectivement un incroyable succès depuis maintenant 2 ans. Et puis au départ, on pensait qu'on allait uniquement plaire aux retraités. Eh bien non, on a de plus en plus de jeunes. On fait 29% de part d'audience sur les 15-34 ans. Donc on est assez surpris du succès de cette émission qui est transgénérationnelle.
Tu y croyais dès le départ, Julien, pour le coup, au succès d'émission, parce que le temps qu'elle s'installe, il a fallu un petit peu de temps, mais c'est quand même très vite monté derrière.
Il n'a pas fallu tant de temps que ça, parce qu'on a commencé à 3,8%, et puis au bout de 2 mois, on s'est retrouvé à 5,5%, ensuite 7, 10, et puis là, voilà, on a vu qu'il y avait une inertie considérable sur ce format. Et voilà, c'est très très vite monté. Puis bon, moi j'ai rencontré, on a fait le casting, j'ai rencontré les autres acheteurs un petit peu avant le premier tournage du pilote, et je me suis dit, waouh, il y a un très bel amalgame d'acheteurs, on est tous très différents, on a des grandes gueules, on a de belles femmes, je suis sûr que ça va bien marcher, quoi.
Alors tu le racontes très bien d'ailleurs, hein, dans ton livre, la rencontre, la première rencontre avec les acheteurs, les débuts de l'émission, tout ça c'est raconté très en détail. Dans le livre « La vie est un jeu », à quel âge tu as su que tu serais un enchérisseur né ? C'est arrivé très tôt ?
Alors moi j'ai la chance, pour ceux qui pourront le lire dans le bouquin, ils le verront rapidement, mais j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont éduqué sur les objets, le jeu, le risque. Et puis bon, comme j'ai pas fait d'études, je ne sais pas ce qu'est le risque. Du coup, je fonce tête baissée et les enchères font partie de ma dose d'adrénaline quotidienne que je dois avoir. Voilà, moi, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne prends pas de café. Bon, je fais souvent l'amour, mais mais voilà, moi, il me faut une dose d'adrénaline et je vais la chercher dans ce petit jeu des enchères où je pousse à bout mes adversaires et où je me pousse, moi, dans mes retranchements.
Et c'est ça, justement, je pense, qui a fait le succès de l'émission. Tu es conscient aujourd'hui d'être vraiment un des personnages de l'émission préférée ? Les gens te le disent souvent ?
Oui, on me le dit très souvent. Et puis, quand je vais en province, les gens m'aiment beaucoup en province. Mais je suis un personnage assez complexe parce que les gens, pour certains, me détestent et pour d'autres, m'adorent. Ils me détestent parce qu'ils pensent que en poussant mes adversaires à monter les enchères, je suis un vrai JR comme à Dallas. Et puis les autres m'adorent parce qu'ils me disent « Waouh, tant mieux, parce que si vous n'étiez pas là, les vendeurs repartiraient avec des sommes qui seraient bien inférieures. » Voilà, peu importe, à vrai dire, l'avis, l'essentiel c'est qu'on en ait un. Et pour moi, je sais que j'ai un impact sur nos téléspectateurs.
Alors, ce livre, c'est un peu une livraison à cœur ouvert pour les spectateurs qui vont tout apprendre sur toi, ton histoire, ta famille, de ta naissance. C'est venu quand, le besoin justement d'écrire, de se livrer comme ça ?
Alors, c'est venu il y a 2 ans. C'est venu de par mon fils, Zachary, qui me dit « Papa, quand tu côtoies mes amis et quand tu leur racontes un peu ton histoire, quand ils te posent certaines questions, ils sont un peu sur le cul. Ils me disent « Waouh, ton père, il a une histoire de dingue, il a fait des choses... formidable, il a rebondi à chaque fois. Et mon fils me dit, pourquoi t'écris pas un bouquin ? Bon, ben voilà, c'est rentré dans mon petit cerveau, j'ai commencé à écrire 1, 2, 3, 10 chapitres, et puis j'ai laissé tomber pendant 9 mois. Et là-dessus, Robert Laffont est venu me voir en me disant, ça serait sympa qu'on fasse un bouquin ensemble, et que vous vous remettiez au travail, parce que je leur ai dit que j'avais déjà quasiment écrit 10 de chapitres. Et voilà, il y a eu 6 mois de gestation supplémentaire, et puis on a sorti le bouquin début juin.
Alors, pour revenir sur Affaires conclues, aujourd'hui, c'est quasiment 1h40 tous les après-midi, mais il faut le temps de les enregistrer. Combien t'enregistres de numéros par jour, pour le coup ?
Alors, on enregistre tous les mercredis et les jeudis, et on enregistre 5 numéros par jour, c'est-à-dire que l'on voit passer à peu près 23 objets. Sur les 23, il y a peut-être 1 ou 2 objets qui ne vont pas passer à la télé parce que c'est peut-être des no-pass ou des mauvaises séquences. Et donc, on garde une vingtaine de séquences pour monter 5 épisodes.
Alors tu le dis un petit peu dans ton livre, hein, d'ailleurs, hein, tu en parles beaucoup, mais quels ont été pour toi les vendeurs qui t'ont le plus marqué au cours de ces 2 ans ?
Il y a des vendeurs, le petit jeune, c'est Alexandre, qui est venu pour son frère. Ça c'est une histoire qui m'a marqué parce que son frère on va pas dire qu'il est paraplégique, mais qu'il a eu un gros accident, il est pompier de Paris, il est tombé, et du coup, il est paralysé dans un lit, il suit des missions, mais évidemment, comme beaucoup de personnes qui sont dans les hôpitaux, parce qu'elles n'ont pas grand-chose à faire que malheureusement de souffrir et de se faire soigner. Du coup, elles nous regardent et ça leur donne du baume au cœur. Et son frère nous regarde dans son lit et donc parle de nous à son petit frère. Voilà, et son petit frère vient me vendre une machine à écrire qui ne vaut pas grand-chose. Et je mets 600 euros dessus parce que voilà, c'était pour donner du baume au cœur à ce malheureux qui est dans son lit. Puis bon, il y a d'autres histoires comme ça. On voit passer beaucoup de gens qui, pour certains, sont des écorchés vifs et pour d'autres, qui ont bien la joie de vivre. Et c'est à nous de leur redonner, j'allais dire, envie d'avoir le sourire. Je sais que quand ils passent une journée avec nous sur le plateau, franchement, ils partent avec la banane. Ils ont passé une excellente journée. Et ça, c'est aussi, on voit que les enchères sur le plateau tel qu'il est diffusé, mais derrière, il y a tout un back-office énorme et on fait en sorte que ces personnes ressortent de là avec le sourire.
Il t'est arrivé de vouloir absolument des objets qui, finalement, t'ont passé sous le nez parce qu'on a l'impression que rien ne te résiste.
Franchement, ça m'est jamais arrivé.
C'est pour ça que je me suis dit peut-être que c'est une séquence qui n'est pas passée finalement ou j'en sais rien. Mais c'est incroyable, moi je n'ai jamais vu en regardant l'émission un objet que tu voulais absolument et qui t'est passé, que t'es passé à côté.
Écoute, quand il y a un objet où je lâche l'enchère au bénéfice de Pierre-Jean par exemple, c'est que cet objet je le voulais, ok, très bien, mais je ne voulais pas à n'importe quel prix. Pierre-Jean est prêt à dépenser des sommes considérables sans considération économique puisque lui n'est pas marchand. Et typiquement, il y avait un carton à dessin avec des affiches de Picasso à l'intérieur signées par la sœur de Picasso. Voilà, moi, en dessous de 5 000, je le voulais bien. À 6 000, je le voulais plus. À 7 000, il me sortait par les yeux. Et total, je suis monté quand même jusqu'à 9 200. Et merde, et je me dis, à 9 200, la nana vient pour faire une interconclue avec moi. Et je fais tout pour que Pierre-Jean relance. Et Pierre-Jean va relancer à 9 300 et je lui laisse. Parce que j'en voulais vraiment pas. Et puis, c'était plus du tout une bonne affaire. Donc voilà, j'aime me faire peur. Par contre, il y a beaucoup d'objets que je ne voulais pas et que j'ai fini par acheter avec, en faisant tout ce type de conneries, quoi. Parce que des fois, mes petits adversaires savent que je suis en train de les bourrer et ils vont lâcher. Et je me retrouve avec l'objet collé. Bon, c'est pas grave, j'ai des boutiques, je leur mets en vente et au pire, je perds un peu d'argent dessus. Mais voilà, ça nous arrive de perdre de l'argent.
Est-ce que tu as encore envie de challenge après avoir écrit, après avoir cartonné dans cette émission encore et une troisième saison d'ailleurs débutera dès la fin août?
On enregistre la saison 3 là.
Ah oui, là ça rigole pas, oui, effectivement.
On enregistre déjà, on est quasiment sur les diffusions de fin septembre là.
Ah oui, il y a quand même un petit peu d'avance alors.
Il y a un petit peu d'avance, sachant qu'on va s'arrêter de tourner le 11 juillet, donc du 11 juillet au 28 août, on ne tourne pas.
Bon, petite vacances alors.
Voilà, on prend un peu d'avance.
Bon, très bien. Julien, oui, est-ce que tu as encore des envies après avoir écrit un livre, après cette émission? Est-ce que, par exemple, si on te proposait de jouer la comédie ou de faire Fort Boyard, par exemple, comme Pierre-Jean l'a fait cette année, est-ce que tu dirais oui tout de suite à des nouveaux challenges comme ça?
Alors, je pense que, je dirais non à tous les challenges télé qui ne sont pas du ressort de mon savoir, entre guillemets, c'est-à-dire l'antiquité, la déco, voilà, des choses où je suis à l'aise et où je peux apprendre aux autres quelque chose, je suis banco. Maintenant, aller faire Fort Boyard aux Danses avec les Stars, c'est pas mon truc. Pour autant, monter sur des planches au théâtre ou une comédie, oui, je suis preneur. Bien évidemment, parce que j'adore le public et j'adore être au-devant du public.
Ou jouer un nouveau personnage dans le style de Louis la Brocante, ça serait très drôle aussi de te faire jouer un rôle d'un antiquaire.
Ça serait excellent. Mais je ne sais pas si les chaînes sont enclins à accepter ce genre de format aujourd'hui.
Bon, avis aux producteurs et aux réalisateurs, il y en a beaucoup qui nous écoutent chaque semaine. Donc avis à eux, si vous avez une petite idée de ce côté-là. Voilà, Julien est prêt quand même à relever quelques challenges. Merci en tout cas à toi d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous tous. Et puis vous êtes une superbe radio, j'adore ce que vous faites.
Merci beaucoup. La vie est un jeu. C'est le livre qui vient de sortir chez Robert Laffont qu'il vous faut absolument pour votre été à l'ombre du parasol. Vous allez pouvoir le dévorer comme nous on l'a fait en un rien de temps. Merci à toi Julien et à très vite.
Merci. À très bientôt. Au revoir.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, vous le savez, Fort Boyard fête ses 30 ans cette année. 30 ans, eh bien, c'est un anniversaire vraiment haut en couleur qui va être réservé tout l'été avec des émissions en prime time, des émissions de seconde partie de soirée, des surprises et Vincent Lagaffe, toujours plus en forme que jamais, qui est avec nous, notre invité justement aujourd'hui. Bonjour Vincent.
Méga Gaffe est heureux de vous saluer.
Méga Gaffe, et oui, un personnage qui est arrivé l'année dernière sur Fort Boyard, pour le meilleur et des fois pour le pire pour les candidats aussi.
Non, c'est toujours pour le meilleur. On essaie de faire en sorte que les candidats s'amusent, prennent du plaisir et réussissent à choper la clé. Mais ouais, c'était pas un défi très facile à relever.
Comment vous êtes arrivé sur Fort Boyard?
Je suis très copain avec Alexia Laroche-Joubert, que je connais depuis 20 ans, à l'époque où elle était chez Endemol. Je suis un admirateur de Olivier Mine. Je connais Fort Boyard depuis... 50 ans, j'ai passé mes vacances, j'ai couru autour du Fort Boyard en
jet ski.
Et Alexia m'a téléphoné en me demandant si j'avais une idée pour pouvoir faire un jeu en jet ski d'une manière assez sécurité aux candidats. Et puis on a étudié le truc, on y est allé, et avec une bonne assurance, on arrive à faire des trucs sympas.
C'est clair, surtout que cette année, franchement, rien n'a été épargné à l'équipe de tournage, avec déjà un premier jour annulé, car évidemment en pleine tempête sur le fort. Ça a été un tournage vraiment compliqué cette année.
Heureusement qu'on est sur une propriété privée parce que on est avec ce jeu 100% hors la loi. C'est-à-dire que on n'a pas assez de fonds, on n'est pas assez loin du fort, on n'a pas les tenues absolument réglementaires. Bon, ça va qu'on est sur une propriété privée et que les gens ont bien vu qu'on faisait pas n'importe quoi et que les autorités ont bien compris qu'on mettait un maximum de professionnalisme dans l'épreuve. Mais c'est vrai que cette année, ça a été très très compliqué parce qu'on avait d'abord on a failli avoir une annulation à cause de la pollution qui a failli passer à côté de chez nous, de chez vous, dans les Charentes-Maritimes. Et puis on a eu des conditions climatiques assez épouvantables avec des très très gros coefficients de marée, des courants, des déferlantes, du vent, de la pluie, des grands vents. Ouais, ça a franchement pas été très 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 facile comparé à l'année dernière où on était quasiment Méditerranée, quoi.
C'était effectivement un peu ça. On se fait peur quand c'est comme ça sur des épreuves.
Ben, on se fait peur, ouais, parce que on a quand même l'intégrité physique d'une personne au bout d'un tuyau à 5-8 mètres de haut. Et ça fait partie des sports extrêmes. Les tarifs qu'on paye dans les assurances nous font bien comprendre que c'est un sport qui, pratiqué dans certaines conditions, peuvent être un peu dangereuses. Nous, on essaye de minimiser tout ça, mais ouais, on n'a pas le temps de bien leur expliquer, on n'a pas le temps de bien les entraîner. Et puis, il faut pas trop leur expliquer, il faut pas trop leur entraîner, sinon ça serait trop facile. Mais bon, Megagaf est là, Megagaf veille au grain, Megagaf est un excellent coach et Megagaf fait des prouesses avec les candidats et Megagaf est heureux de participer à cette émission.
Quand vous êtes arrivé sur le fort, la première fois, premier jour de tournage, parce que même si on tourne autour en jet, il y a effectivement tourner autour en jet ski ou en bateau, mais il y a aussi monter dessus et là commencer à avoir l'épreuve. Premier jour, vous mettez le pied sur le fort, vous dites quoi ? Un rêve de gosse ?
Quand je suis venu tourner le premier jour à Fort Boyard l'année dernière, je me suis dit, tiens, ça a considérablement changé. Parce que quand j'ai connu le fort il y a une cinquantaine d'années, on pouvait y accéder, il était encore un peu ouvert, on pouvait y accéder par marée haute avec des petits voiliers. Et c'est vrai que on avait un petit peu tendance parfois, en partant de Boyardville ou du château, on allait un petit peu tourner autour du fort et c'est vrai qu'on s'est un petit peu permis de grimper dedans. Alors c'est vrai qu'en dehors des 2000 tonnes de guano qu'il pouvait y avoir, c'est vrai que la première fois qu'on rentre là-dedans, c'est une ville, c'est un village, c'est un studio de télévision maintenant. Donc ouais, c'est assez émouvant. Et puis arrivé par la plateforme pétrolière qui est greffée au fort, c'est très impressionnant. Mais même les conditions de travail, les conditions de tournage sont extrêmes là-bas.
Dernière question, avant d'évoquer les projets évidemment, quel est le candidat qui vous a le plus impressionné sur votre épreuve ? L'année dernière et cette année, hein, puisque tout est tourné.
J'ai eu de la chance parce que l'année dernière, j'ai fait voler Marine l'Orphelin, j'ai sympathisé avec elle, elle a brillé tout de suite et ensuite je l'ai retrouvée pendant une semaine sur l'île des Robinsons aux îles Fidji où on a tourné cette émission de survie. Et je crois que c'est elle qui m'a le plus marqué.
Des projets pour la rentrée, Vincent ? Est-ce qu'on va vous revoir peut-être en fiction ou peut-être à la télévision, une nouvelle émission ? Est-ce qu'il y a des choses qui germent un peu ?
C'est-à-dire que pour faire de la télé, il faut aller chercher le boulot et moi, je cours pas après. Donc j'ai un peu tendance à laisser le téléphone sonner. Et c'est vrai que dans ce métier, si on le fait pas sonner, il sonne pas. Et comme j'ai pas envie de le décrocher et d'appeler les gens, Je vis de ma passion, je vis avec mes amis, je vis dans mon sud, je vis avec mes chiens, je vis dans ma nature, je vis comme un ours à vrai dire, que je suis depuis toujours et j'ai pas les opportunités, puis je déclenche pas non plus les opportunités pour aller chercher des rôles ou c'est vrai que j'ai un peu tendance à me laisser traîner dans mon garage, à être entre un vilebrequin, une culasse et des pistons et je suis très heureux comme ça. Donc oui, j'ai des envies de scène, j'ai des envies de long métrage, j'ai envie de jouer la comédie. Je suis un peu ouvert à toutes les propositions qu'on pourrait me faire. On m'en fait pas tant que ça. Et puis au niveau télévision, j'ai envie de créer une émission qui s'appelle Sur la piste des braves et qui est à mi-chemin entre Rendez-vous en terre inconnue et Top Gear.
Bon, et à Cavalaire, il y aura un beau rendez-vous en septembre, comme tous les ans ?
Oui, mais je m'en occupe plus. Parce qu'il faut savoir passer le flambeau. Et il y a une équipe qui s'appelle les Tontons Flingueurs qui font ça très très bien. Moi j'ai créé cet événement, je l'ai fait vivre pendant 22-23 ans. Et c'est vrai que, pas que je m'y ennuie ou que je m'y retrouve pas, mais je m'en lasse un peu. Donc il y en avait qui avaient envie de le reprendre, il y en avait qui avaient une équipe qui était vraiment en place et qui est très professionnelle et qui a vraiment envie de jouer le jeu. Donc ben voilà, je leur ai dit allez-y, les mecs, foncez. Hein.
Faut pas hésiter, effectivement. Méga gaffe, vous le retrouvez tout l'été dans Fort Boyard pour les 30 ans. Un rendez-vous à ne pas manquer. Vincent, merci infiniment d'avoir été avec nous et avoir passé ces quelques minutes dans Chute, on écoute la télé.
Avec plaisir, bonne soirée.
Et à très vite en Charente-Maritime du côté de Fort Boyard l'année prochaine, du coup.
Méga gaffe, vous salue bien.
À très vite.
Samedi soir, Fort Boyard, saison 30.
Soi-disant une équipe de rêve. Oh, oh, oh. Moi, je vais leur faire vivre un véritable cauchemar et ils vont s'en rappeler longtemps de ce 30e anniversaire.
On va pas les Gérard. J'arrive pas.
On s'entend plus cuisiner. Enfin.
Fort Boyard saison 30, présenté par Olivier Mine, samedi soir à 21h sur France 2.
Allez, on va continuer à parler d'un si grand soleil. Et bien, vous savez, ça continue tout l'été. Il n'y a pas de stop cette année pour une première saison pleine de succès. 4 millions de téléspectateurs tous les soirs. C'est assez incroyable et on va en parler avec les comédiens un petit peu tout au long de cet été. Avec Folco Marchi qui est avec nous, qui joue le rôle de Ludo. Salut Folco.
Et salut.
Merci d'être avec nous, Folco. Alors Folco, vous avez vu dans le rôle de Ludo. Alors il y a eu effectivement tout plein de petites histoires avec Lucille, etc. Maintenant, il est carrément dans la coloc et on a découvert effectivement cette histoire, on a découvert sa maman aussi, dont il n'avait quasiment pas de nouvelles, où il avait coupé les ponts carrément. Et sa maman, bah, lui a joué un petit peu un tour, on va dire en quelque sorte, puisque ce qu'on a vu eh bien, dans les épisodes du mois de juin, c'est qu'elle lui a fait croire qu'elle a été atteinte d'un cancer, le croyant elle-même à la base, mais elle a eu beaucoup de mal à lui avouer la vérité.
Elle a eu beaucoup de mal, ouais, ça lui a coûté. Hein. On voit petit à petit au fil des épisodes qu'au début, effectivement, elle a peut-être un cancer et en parallèle son fils qui voit ressurgir sa mère. Ça doit faire bizarre. Hein. J'ai essayé de mettre un peu à la place de ça, d'aller chercher des choses un peu dans le domaine du personnel et de me servir de certains souvenirs, des émotions, du vécu. Et en même temps, d'imaginer aussi ce garçon qui voit vraiment sa mère arriver quelques années plus tard. Comme ça doit faire vraiment très bizarre. Il se voit, il se revoit et au fil du temps, effectivement, il s'aperçoit qu'elle s'en est servie pour se rapprocher de lui. Ce qu'on peut comprendre aussi, peut-être. Enfin, je sais pas. Je crois qu'il y a peut-être des mères qui s'est arrivé et est-ce qu'il faut pardonner? Peut-être.
Alors avant de parler du futur, hein, évidemment de Ludo, on va parler un petit peu de toi. Comment tu vis, Folco, cette notoriété qu'apporte aujourd'hui une série quotidienne? Ça change un peu le regard des gens dans la rue, ça change beaucoup de choses. Et il est vrai que quand on est dans une machine comme ça, ça change beaucoup de choses du jour en main.
Je le vis à merveille. J'ai reçu beaucoup de cadeaux cette année. C'était même presque trop pour moi. Et effectivement, on a été super bien reçus. Encore même hier, j'étais en train de parler avec des gens qui regardent la série dans la rue. Les gens sont contents. Ça fait très bizarre. Ça fait bizarre.
T'as été surpris que la série s'installe aussi vite dans le cœur des téléspectateurs?
Et en même temps, j'attendais ce moment avec impatience. Donc, c'est arrivé. Au bon moment, je dirais.
Dis-moi, Folco, meilleur souvenir de tournage pour toi?
Avec ma collègue de travail, Naïma Rodrigue, qui joue Lucille. Un fou rire inexpliqué, incontrôlable. Rien que d'y penser, là, j'ai les larmes aux yeux de rire. On se tape des barres de rire dans les studios. Et il y a vraiment des souvenirs de fou rire, en fait. Incontrôlable et... On peut pas trop se permettre de prendre notre temps là-dessus, mais du coup c'est encore pire. Et oui, on ventile au bout de 4-5 scènes d'affilée, on commence à ventiler et là, gros fou rire avec Naïma Rodrigue.
Alors pour le coup, toi, tu es un des seuls personnages, hein, avec Naïma qui avait pas mal de scènes au zoo, hein, de Montpellier. Comment se passe ce tournage? Vous tournez généralement le lundi, hein, quand le zoo est fermé. Et comment tu t'es senti avec les animaux? Est-ce qu'il y a des animaux qui t'ont impressionné plus que d'autres? Comment ça s'est passé?
Alors, c'est vrai que c'est une chance extraordinaire de tourner là-bas. À chaque fois qu'on y va, c'est un peu je retourne un peu en enfance. On est un peu des enfants, en fait. On est bien. Et les premiers animaux qui nous ont fait visiter dans la serre, moi, j'ai pas peur des animaux, mais quand même, il y a des animaux qui sont libre circulation et je me souviens qu'il y avait ça ressemblait un peu à un dinosaure, c'était une espèce de poule géante assez flippante dans la serre amazonienne, j'avoue, ça m'avait un peu impressionné, un peu fait peur aussi, une poule noire assez haute sur pattes. Mais là, récemment, moi, j'ai tourné avec un tapir et j'avoue, c'était plutôt un agréable moment.
Bon, le devenir de Ludo cet été, alors que va-t-il lui arriver comme aventure ?
Sans en dire trop, Ludo va avoir une aventure complètement par hasard sur un coup de...
Comment dire ? Un coup de foudre ?
Un coup de foudre inexpliqué, inexplicable et qui le met dans une situation un peu compliquée. Du coup, il va être déstabilisé pendant plusieurs semaines et il va pas savoir comment gérer trop.
La situation.
Ouais.
On pensait qu'à un moment donné, avec Lucille, ça allait le faire.
Oui.
Hein. On était jusqu'à un moment et qu'elle tombe dans les bras d'Hakim, évidemment.
Ouais, c'est clair, hein, c'est clair. Nous, on savait pas trop non plus en lecture ce qui allait nous arriver. Il y avait une petite, un petit doute qui pesait à chaque fois qu'on découvrait les textes. Mais finalement, effectivement, l'amitié prend le dessus. Et c'est vrai qu'on sent aussi que voilà, au niveau de l'écriture, on aime bien ça plaît aussi aux spectateurs et à tout le monde de laisser croire qu'un jour il pourra se passer peut-être quelque chose entre ces deux amis, quoi.
Et on le sait bien, dans une série quotidienne, tout peut arriver.
Tout peut arriver. Everything.
Hey, yes. Bon, merci en tout cas à toi, Folco, merci d'avoir été avec nous. Et puis on te dit eh bien, à très vite. On espère se retrouver très, 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 très bientôt.
Pareil, je vous souhaite un bel été à tous. Et mettez bien de la crème solaire, c'est très important.
Et peut-être rendez-vous au Festival de la Fiction Télé de La Rochelle en septembre. On espère en tout cas te voir dans notre région.
Au revoir, des bisous.
Ça va ? Je vous avais l'air ailleurs.
Alors, votre papa va mieux ?
Bien, il nous a fait un peu peur, mais c'est bon, il est guéri.
Claire, je sais que ça te fait penser à ta soeur. Je sais que c'est difficile.
Vous ne bougez pas les amis, on se retrouve dans 3 minutes, juste le temps pour nous de préparer notre spécial Francofolie. Arthur Ely et Silly Boy Blue sont nos invités, nos découvertes musicales de ces pré-franco qui débuteront, je rappelle, mercredi sur le vieux port de La Rochelle.
Bouge pas, bouge pas, chut, on écoute la télé, reviens dans un instant, à tout de suite. Chut, on écoute la télé,
le talk show radio.
Chut, on écoute la télé, spécial festival.
Allez, les Franco ouvrent leurs portes dans 2 jours. C'est l'événement à La Rochelle, en Nouvelle-Aquitaine, bien évidemment, avec le chantier des Franco, puisqu'on va parler en amont de ces Franco avec le chantier. Alors, le chantier, c'est quoi ? Eh bien, c'est la découverte de nouveaux artistes. Alors, il y en a plein qui sont passés par le chantier des Franco. On a eu Christine and the Queen, on a eu Big Flo et Oli, des artistes qui aujourd'hui font des carrières exceptionnelles. Et c'est ce qu'on souhaite aujourd'hui à nos deux artistes que l'on va avoir en ligne. Le premier, eh bien aujourd'hui, c'est Arthur Ely qui est avec nous. Bonjour Arthur.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Arthur, tu te produiras sur la scène de la Coursive, ça sera jeudi, à 15h pendant ces Francofolies, en même temps que Vendredi sur Mer. Arthur, déjà, moi, on va planter un petit peu le décor de ton histoire, puisque tu n'étais pas parti pour faire une carrière dans la musique, mais plutôt dans le tennis.
Ben ouais, enfin c'est vrai que, en gros, j'ai fait quasiment que du tennis de ma vie, de mes 5 ans à mes 14-15 ans. Et j'ai commencé la musique tardivement, enfin en gros je me suis blessé quand j'étais ado, et j'ai commencé la musique du coup assez tardivement quand j'étais au lycée, quoi, vers 16-17 ans. Et j'ai commencé par la guitare, à fond, et puis assez rapidement quand j'ai commencé la musique, je me suis dit en fait c'est ça que je veux faire de ma vie, quoi.
C'est un virus, hein, finalement.
C'est un sacré virus, ouais, on peut le dire, ouais. Quand j'ai commencé, et tout de suite eu un truc un peu que j'ai senti, donc c'était ouais, surtout avec la guitare, mais je commençais à écrire des chansons. Et puis ça a été à base de 3 à 3 heures par jour dès que je rentrais du lycée. C'était non-stop. Et du coup, j'ai continué comme ça jusqu'à aujourd'hui, quoi.
Alors, il y aura un album entier qui va sortir à la rentrée. Mais petite particularité, c'est que tu distilles cet album en 3 parties, en quelque sorte, dont la première et la deuxième qui vient de sortir vendredi dernier vient déjà d'être un petit peu distillée au fur et à mesure. C'est une volonté ?
Ouais, c'est carrément une volonté. Il y a une dizaine de chansons que j'ai composées récemment et que je voulais sortir assez rapidement parce que je me sentais très en phase avec elles et j'avais envie de pouvoir en gros donner un petit peu un panorama de là où j'en suis en ce moment parce que il s'est passé pas mal de choses pour moi cette année. Du coup, mon écriture a un peu changé et tout et j'avais envie de pouvoir raconter tout ça assez rapidement. Et l'idée de faire ça en 3 parties, c'était principalement pour moi, j'avais pas envie de sortir un album avec toute la pression qu'on attend autour de ça. Je considère pas ça comme un album, dans le sens pour moi un album c'est comme le White Album des Beatles, c'est un truc qui est vraiment le moment où je me dirais c'est mon album, c'est un truc que j'ai envie d'avoir réfléchi pendant longtemps. Et là, c'est quelque chose qui était un peu plus, qui pour moi était plus spontané et un peu plus, ouais, avec un truc un petit peu plus brut. Et donc j'ai groupé ces chansons, je les ai groupées en trois petites parties qui sont chacun un peu des étapes des derniers mois en fait. Et du coup, je les sors sur l'été jusqu'à la rentrée quoi.
On va écouter un petit extrait de Plus j'avance. C'est un des extraits de ce que tu nous as déjà distillé. On revient tout de suite, Arthur, avec toi.
Ouais.
Plus j'avance, plus je me mens, je comprends plus mes sentiments. Trop clivant, mais trop tigeant, je casse les codes, mais gentiment. Plus j'avance, plus je me mens, plus je deviens cynique, c'est flippant. Oh maman, tu m'entends, petit, j'étais plus confiant. Plus j'avance, plus je perds la confiance, plus je trahis, plus je me haïs, plus j'attends, plus je me tends, plus je devrais me lever.
Voilà, plus j'avance. Arthur, comment tu définirais un petit peu ta musique? Moi, j'ai un peu l'impression que c'est du rap mélancolique, un peu.
Alors, comment j'ai fait ma musique? C'est une énorme difficulté. Mais en gros, je me considère pas comme un rappeur. Moi, je viens pas du rap. Je viens du rock plutôt et de la chanson quoi. Je viens du guitare voix moi. Bon, quand je suis arrivé à Paris pendant 2 ans, j'ai joué guitare voix dans les bars. Puis quand je me suis mis à faire mes prods avec mon ordi, c'était le moment où j'ai commencé à écouter beaucoup de rap. Et du coup, il se trouve que y a l'influence urbaine, elle est là maintenant. Mais franchement, je me considère pas comme rappeur. Et ce qui me plaisait un peu sur les derniers mois, c'est qu'un certain nombre d'artistes d'influence m'ont fait me sentir un peu libre de pouvoir vraiment mettre ce que je veux dans mes chansons en fait, et de pouvoir être libre de passer sur une chanson d'un truc très rap, très énervé, un peu burlesque, à un truc beaucoup plus guitare-voix, premier degré, beaucoup plus rock. Dans mon live, il y a beaucoup de solos de guitare. Donc, je considère que je fais de la pop urbaine, quoi, de la chanson. Et après, ce qui est cool, c'est que j'ai l'impression qu'avec avec ma génération, la manière dont on écoute la musique, il y a quelque chose qui est beaucoup plus libre dans la manière dont on aborde un peu les différents styles de musique. Et on peut tout à fait se permettre de passer d'une chose, d'un extrême à l'autre. Et ça me plaît beaucoup.
Alors Arthur, on parle pas rap bien évidemment, c'est ce qu'on disait à l'instant. Quel est pour toi le moment préféré dans la construction de ton album? Est-ce que c'est le moment où tu composes? Est-ce que c'est le moment où effectivement l'album commence à arriver et tu le partages au public? C'est vraiment ce partage avec le public sur scène. C'est quoi ton meilleur moment à toi?
C'est marrant comme question, j'ai jamais réfléchi. Je pense que le moment que je préfère, c'est quand je vois quand même l'album qui se précise, c'est-à-dire que tout devient mixé et tout est en gros tout est prêt, tout est propre pour que ça soit sorti et notamment le moment du coup où je transfère ça effectivement sur scène. Donc là, sauf pour moi ça s'est passé à La Rochelle quoi, parce que c'était au chantier des Franco, et je pense que le moment où j'ai commencé à voir les chansons et à réussir à les vivre sur scène et à me dire ça y est, maintenant c'est ça que je vais jouer sur scène et c'est ça que je suis en ce moment. Je crois que c'est ça qui m'a fait le plus de bien, peut-être plus que la composition, parce que la compo, c'est toujours un peu anarchique.
Et oui, quelque chose d'assez solitaire, finalement.
Ouais, c'est solitaire, et puis c'est brouillon, et puis c'est... Enfin, il y en a souvent qui disent que, bon, ils ont besoin de composer des trucs pour se sauver de je sais pas quoi, mais pour moi, je sais pas trop. C'est plutôt il y a plutôt une sorte de truc un peu spontané, c'est des sortes de trucs un peu anarchiques qui sortent, et puis ça veut pas dire que je me sens mieux une fois que j'ai composé le truc. Mais par contre, une fois que je commence à maîtriser le truc sur scène, et que du coup, c'est comme si un peu c'est le moment où je mettais la main dessus, quoi. Et là, ça, c'est vrai que ça devient vraiment plaisant. Donc je pense que c'est plutôt la fin du processus, quoi, qui me plaît.
Eh bien, on va découvrir ça, en tout cas. Ça sera jeudi, à partir de 15h, à La Coursive. Un rendez-vous à ne pas manquer avec toi, Arthur Ellis. C'est aussi, les découvertes, les francopholies, et la chance donnée, de jeunes artistes de pouvoir se produire et faire découvrir leur univers musical. Et ce qu'on va faire avec toi, avec le temps, c'est le titre qu'on va découvrir maintenant. Merci, Arthur.
Merci à vous. Et je peux aussi préciser que, du coup, je joue le 11. Et je joue la veille, je vais jouer en warm-up pendant 10 minutes sur la grande scène avant Angèle aussi, le mercredi 10.
Ah oui, tu fais carrément surprise entre deux.
Et j'ai appris ça la semaine dernière, c'était une surprise pour moi aussi. Du coup voilà, je vous le dis.
Donc on te retrouve donc mercredi, juste avant Angèle, et on te retrouve sur la grande scène, et puis on te retrouve aussi donc le 11, jeudi prochain, donc à partir de 15h.
Ouais, c'est ça.
Merci à toi, Arthur.
Merci beaucoup, c'est cool.
et je m'entraîne dans le temps. Et je m'entraîne dans le temps. Ça m'angoisse qu'on me remplace, alors que je suis pas encore en place. Et devant moi file le temps. Si j'explose pas tout cette année, je crois que je vais foutre le camp, faire sauter les tympans. Non, j'ai rien d'indécent. Ok, sur Insta, je balance pas ma vie perso, mais je mets tout dans mes sons. Si t'as rien à dire, faire des stories, ça se défend. Mais si personne me follow, qu'est-ce que je fais là? Je veux faire de la musique comme Fela. Mais je vois passer le temps et ma mère attend toujours sa villa. Oulala, faut que je me bouge de là, faut que je reprenne la barre. Le vent tourne là, je me je vois ma jeunesse qui prend le large.
Allez, on va continuer eh bien notre chemin sur les francopholies et le chantier des francos. Après Arthur Ellie, eh bien c'est Silly Boy Blue qui est avec nous en ligne. Bonjour Anna.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Silly Boy Blue, c'est le nom de scène, nantaise d'origine et maintenant eh bien à Paris pour ce projet, ce premier EP et ce chantier des francos, une aventure qui est en train de prendre un tournant plutôt sympathique.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Alors, le chantier des Franco, qu'est-ce que ça vous a apporté déjà en quelques mots, Anna?
Énormément de confiance en moi et avec grâce à une équipe absolument géniale, des intervenants super et voilà, on apprend plein de choses sur nous-mêmes et aussi sur évidemment toute la partie un peu plus technique sur la musique qu'on fait et on apprend pendant 5 jours, c'est très très intense, mais moi ça a été une expérience qui a complètement révolutionné ma manière de me connaître en tant qu'artiste et de faire de la musique, donc c'était vraiment génial.
Alors, on discutait tout à l'heure avec Arthur justement qui n'était pas du tout destiné à faire de la musique mais plutôt à être tennisman. Est-ce que vous avez su de bonne heure que vous aviez envie de chanter, vous aviez envie de faire de la musique votre métier?
Eh ben, je vois très bien Arthur tennisman déjà, j'espère qu'il pourra réaliser ce rêve-là un jour. J'ai fait de la musique très très jeune, j'ai eu ma première guitare à 12 ou 13 ans. Je m'étais jamais envisagée comme musicienne à titre on va dire professionnel, mais ça a toujours fait partie de ma vie, oui, très fort dès très jeune en fait. Ça a été quelque chose d'indispensable assez tôt pour moi en tout cas de faire de la musique.
Pourquoi ce nom Silly Boy Blue? Qu'est-ce que ça signifie pour vous Anna?
Alors Silly Boy Blue ça vient d'une chanson de David Bowie de ses tout premiers albums. Et du coup donc moi c'est un artiste qui m'a marqué très tôt aussi c'est à la fois une manière de lui rendre hommage et aussi un pseudonyme que j'aime beaucoup qui laisse une part de mystère sur le projet. On sait pas qui est derrière, si c'est un groupe, si c'est une fille, un garçon et voilà, c'est une chanson qui me parle beaucoup de David Bowie et j'ai choisi ce pseudonyme là en hommage à tout ce qu'il a fait après un de ses tout premiers titres, du coup, qui porte ce nom-là.
Alors, premier EP, But You Will. On va en écouter un extrait d'ici quelques instants, d'ailleurs. Mais la première question que j'ai envie de vous poser, Anna, quand on sort un EP, évidemment, je suppose que l'album est déjà en préparation.
Oui. Un EP, c'est juste un avant-goût de tout ce qu'on a envie de dire, je pense. Moi, j'ai beaucoup de maquettes qui sont en cours d'enregistrement. Et voilà, il fallait sélectionner quelques morceaux. Moi, c'est des morceaux qui ont tous été composés à la même époque, donc ça me semblait très cohérent de commencer par cela. Et puis, ouais, beaucoup d'autres qui arrivent, un second EP en préparation qui sortira d'ici début 2020 et avec un prochain single qui sortira à la rentrée prochaine, justement juste après l'été et après les francopholies.
Alors, quand j'ai écouté, moi, un petit peu votre musique, je sentais un petit peu l'influence aussi Christine and the Queens, un peu derrière, sur Santé de 50 Dolls, par exemple.
Cette artiste que je trouve absolument géniale, Christine and the Queens, et qui m'a beaucoup aidé à assumer le fait aussi de chanter en anglais, mais malgré une scène française qui est beaucoup axée vers le français actuellement et j'aime beaucoup également ce qu'elle représente, ses combats, ses prises de position et aussi tout simplement l'artiste qu'elle est, les mélodies qu'elle a composées et puis les paroles qu'elle chante. Et pour moi complètement, je me retrouve complètement dans l'image et dans la musique de Christine and the Queens. Ouais.
Alors, une autre histoire, hein, là, pour le coup, c'est vendredi, puisque vendredi à 18h, on vous retrouve sur la scène de la Coursive pour défendre cette EP et d'autres morceaux aussi. Là, c'est encore autre chose. Est-ce que c'est un des moments que vous préférez, vous partagez la scène avec le public, partager ces moments-là?
Oui, c'est très important pour moi, parce que j'ai fait beaucoup de scènes en groupe et où on pouvait, entre grands guillemets, se cacher derrière d'autres musiciens, etc. Et incarner ce projet-là en solo devant des gens, c'est quelque chose de très très fort, toujours pour moi, avec, il y a beaucoup beaucoup d'émotions. Et c'est une belle victoire aussi de ces morceaux-là que j'ai composés toute seule dans ma chambre, de pouvoir les partager avec des gens, de pouvoir les assumer devant des personnes.
Est-ce qu'il y a des artistes avec qui vous aimeriez collaborer à l'avenir sur sur un album, pour le coup?
Il y en a tellement, il y en a énormément. Dans mes rêves les plus fous, je collabore avec Lana Del Rey et avec en France avec Jeanne Odette, que j'adore.
C'est clair, l'aventure ne fait que commencer, en tout cas pour vous, Anna. Silly Boy Blue, retenez bien ce nom, premier EP qui est déjà sorti, But You Will. On va découvrir un extrait, lequel vous avez envie maintenant qu'on passe?
Eh ben, je passerai bien The Fight, parce que c'est un morceau que j'aime beaucoup jouer en live, donc je le passerai bien.
Eh bien, on va l'écouter maintenant. The Fight, Silly Boy Blue, c'est un de nos coups de cœur du chantier des Francos sur la scène des Francofolies à la Coursive. Ça sera vendredi à 18h. Merci beaucoup, Anna.
Merci beaucoup à vous.
Et à très bientôt.
Dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain, justement, eh bien, nous y serons aux Francofolies de La Rochelle. On va vous proposer une émission spéciale à ne pas manquer dans Chute, on écoute la télé avec les artistes que nous aurons rencontrés tout au long de cette semaine de folie. Alors, vous pourrez la suivre, bien évidemment, sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et notre site internet onécoutelatélé.com. Donc, rendez-vous, évidemment, pour cette spéciale Franco lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Chute, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chute, on écoute la télé.
J'aurai donc le plaisir de vous accompagner tout au long de la semaine sur Bergerac 95 tous les matins à 11h40 pour Chute, on écoute la télé, la quotidienne. En attendant, je vous retrouve également pour la grande hebdo dès lundi prochain à 20h. Alors surtout, ne ratez pas le rendez-vous. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine à tous et une très belle soirée à l'écoute de nos programmes.
Chute, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Pineuil, votre spécialiste culture, centre commercial Grand Pineuil.
Chute, on écoute la télé avec les pâtes à tartiner fabriquées dans le sud-ouest par Lucien Georgelin. Vos points de vente en Dordogne sur lucien-georgelin.com.